France Inter.
À vous qui nous écoutez en podcast, je vous propose de prendre l'apéro avec une star internationale des fourneaux. 13 étoiles au Michelin, tout cumulé. Vous le connaissez de Top Chef. Pierre Gagnaire nous attend. Avec lui, on va apprendre, on va rire et on va saliver. Bonjour Pierre.
Bonjour Charline.
Comment allez-vous?
Très bien, parfait.
Ça va, je peux vous embrasser?
Bah oui.
Oh, ça me fait plaisir.
Bonjour.
Bonjour. Voilà, c'est mon bistrot, ça. À quoi on reconnaît un bon bistrot, vous pensez?
Aux odeurs.
Ah, vous dites, ouais, odeurs.
À propos des toilettes.
Ah, on va commencer par là.
Désolé d'en parler, mais voilà.
Vous avez raison.
Et puis, non, mais voilà, il a beaucoup de charme, ces endroits.
Ah, c'est vrai, il y a beaucoup de boiseries.
J'ai observé la cave, voilà, c'est sympa. Voilà. Voilà, est-ce que c'est lui fait maison? Je sais pas.
Non, je sais pas. Bon, bah, écoutez, on va commencer aux toilettes et puis voilà. On vous attend. Installez-vous.
Ravi d'être là. Voilà.
Charline Vanhoenacker. Bistroscopie sur France Inter.
Pierre Gagnaire, c'est moi qui vais vous cuisiner.
Privilège.
Vous avez peur. Cher Pierre Gagnère, vous publiez une masterclass chez De Noël. C'est un livre, je dirais, de la transmission, où vous parlez de vos produits préférés, de votre expérience, de science aussi. Ça, on va en parler à la fin de l'émission. Restez avec nous, c'est une partie passionnante. Je la garde pour la fin, je suis sûre que vous restez. Et ça rend votre univers accessible. Et en plus, c'est... Le livre coûte le prix d'une carotte vapeur dans un étoilé. Donc en plus, vraiment, c'est tout bénef. Pierre Gagnère, vous possédez plusieurs restaurants étoilés en France et à l'étranger. Exemple, Londres, Tokyo, Séoul, Dubaï. Donc il y a une partie haute gastronomie. Ok, mais dans la haute gastronomie, Pierre Gagnère, où sont les frites? Il n'y a jamais de frites.
Non, mais ce que je peux vous dire, j'ai un ami qui s'appelle Rudy Ricciotti, qui est un architecte mondialement connu.
Tout à fait.
Et il était venu avec son fils, qui avait 5-6 ans. Et ce monsieur, aujourd'hui, a, je crois, presque 50 ans. Et moi, quand il y a des enfants à table, je m'en occupe personnellement. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux manger? Purée, des frites? Ah, je mets les frites, voilà. Et je fais ces frites à ce gamin. Et aujourd'hui, 45 ans après, 50 ans après... Pour lui, Gagnère, c'est les frites. Ah, histoire vraie, hein. Ce gamin, et c'est d'ailleurs, c'est là un des grands mystères de la nourriture. Quand tout à l'heure vous m'avez interpellé en arrivant, les odeurs. Moi, les odeurs, c'est. J'ai un ami, moi, quand j'étais dans la marine, on était rentré d'un long voyage, et il était parisien, et je me souviens, on est arrivé à la Nation, et là. Il s'est arrêté sous une bouche de métro. Il a dit, je suis chez moi. Donc, le monde des odeurs, le monde des souvenirs, il y a des choses qui s'impriment. Et ce monsieur, maintenant cet adulte, qui d'ailleurs est un très grand architecte aussi, il travaille avec son père, pour lui, Gagnère, c'est les frites. Voilà.
Mais c'est quoi la frite, Pierre Gagnère, alors?
Il faut juste bien, il faut avoir une bonne pomme de terre, comme on dit à Saint-Étienne.
Ouais.
Voilà. Il faut la pocher, bien la pocher, qu'elle reste blanche, que sous le doigt, elle s'écrase, qu'il y ait une petite croûte quand même, une petite pellicule ferme, qui va retenir le moelleux de la frite. Et puis après, on la replonge deux fois, voire trois fois. Et si on fait trois fritures, trois passages, elle est encore meilleure. Mais par contre, il faut bien faire attention à la température de l'huile. Voilà.
Attendez, mais la température de l'huile, on ne met pas un thermomètre dedans quand même?
Ah bien,
il faut avoir une friteuse avec le...
Je redécommande quand même une friteuse dans une casserole. Il peut y avoir quelques accidents ménagers assez graves. Hein.
Donc la frite, on oublie minimum double cuisson. Ouais. Hein, ça vraiment, il faut le répéter parce que sinon, il y a blasphème.
Et voire triple.
Oh là 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 là. Pierre Gagnère, dans votre livre La Masterclass, vous mettez, j'ai remarqué, vraiment du pain quasiment à toutes les pages. Je vous ai découvert une passion pour le pain tout le temps. Un fruit sur du pain, ça fait un repas. Le pain émietté, grillé, ajoutez-le dans votre omelette.
Oui.
Ça, c'est vraiment une base aussi, mais pour le Pierre Gagnère chez lui, dans l'intimité.
Je suis français. Hein. Désolé. Donc, j'aime le pain, oui, j'aime le bon pain. C'est une espèce de coupe-faim qui est maigre, entre guillemets. Voilà. je préfère largement un morceau de pain, un biscuit industriel, voilà.
Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai testé votre omelette avec du pain là-dedans. Là.
Oui, oh, oui.
Mais révélation. Mais c'était succulent. Vous, je sais pas, vous avez d'autres trucs comme ça, par exemple, si, admettons, quelqu'un fait, mange des yaourts pendant 20 jours. Comment est-ce qu'on accommode le yaourt pour ne pas s'emmerder? Petit conseil, c'est jamais.
Bah oui, mais il faut avoir un bon plan, je le garde bien. Hein.
C'est vrai.
Donc, les privilèges, il y a une limite quand même.
Alors, Pierre. Pain et yaourt, par exemple. Premier jour, pain
et
yaourt.
Oui, et le lendemain, yaourt et pain.
Voilà, j'espère qu'il nous écoute, peut-être, Nicolas Sarkozy. On est dans un bistrot, Pierre Gagnère. Il y a évidemment un bruit de fond. On entend la machine
oui,
à café,
oui,
les petites cuillères. Ah oui, on adore
j'adore,
ça.
J'adore.
Bah, ouais. Et il y a un abécédaire dans votre livre avec le mot « bruit ». Le bruit en cuisine, est-ce que au son de la cuisine, on peut déceler une cuisine qui fonctionne bien ?
Bien sûr, évidemment.
Ah, ouais.
Évidemment. Comme toute activité humaine, que ce soit dans un atelier, que ce soit... chez le coiffeur. Aïe! Tu m'as arraché l'oreille.
Ça, c'est pas un bon coiffeur.
Oui, c'est mon apprenti. Un stage à troisième.
C'est-à-dire que ça veut dire que si une cuisine est trop bruyante, c'est pas
non,
bon signe.
Non, ça ronfle. C'est-à-dire que il y a du bruit dans une cuisine, mais il y a une façon de poser un objet, il y a une façon de se mouvoir, il y a une façon de parler. Et ça, c'est aussi un sujet qui m'apporte énormément. La façon de... Évidemment, les mots, le respect, enfin, ça, c'est... Aujourd'hui, c'est à la mode, et c'est tant mieux. Mais moi, depuis le début, j'ai compris que les gens, on se voyait, on disait pas de nom d'oiseau, ça sert à rien, donc c'est un métier très stressant.
Mm-hmm.
Il n'y a pas mort d'homme, mais il y a un train qui part deux fois par jour, 12 heures, et le soir, 20 heures, et... quand c'est parti, il faut faire en sorte que toute cette petite machinerie, ce petit théâtre, eh ben, tout soit en place. Et si jamais il y a un petit truc qui ne fonctionne pas, c'est pas la peine de s'énerver. Il faut juste faire un peu un grand souffle et puis voilà, passer le cap. Voilà. Donc aujourd'hui, moi j'ai la chance d'avoir des collaborateurs fidèles, des gens qui aiment ce qu'ils font, qui sont heureux de ce projet culinaire que l'on a depuis maintenant 50 ans.
Mmh.
Alors, c'est pas, ils ont pas tous 80 ans, mais ils ont pas mon âge. Hein. Mais la magie, c'est qu'il s'est instauré quelque chose qui tourne malgré une arrivée continuelle de jeunes gens. Parce que la moyenne des gamins, c'est 23, 28. Chez nous, un 28 ans, c'est un vieux. C'est un vieux, c'est que...
Ah, c'est comme dans le sport.
C'est comme dans le sport, oui. Ouais. Et puis on fait beaucoup de formations, les gens... Alors plus que jamais, les gens, ils savent pas trop ce qu'ils veulent, ils font... Alors chez nous, ils restent quand même. Hein. Mm-hmm. Le contrat moral, c'est 2 ans, voilà. Voilà, alors il y en a qui craquent avant, mais quand même 2 ans, 3 ans, là, ça devient des vrais anciens. Et là, j'estime qu'on leur a donné vraiment quelque chose qui va leur donner quelques clés... pour donner du sens à leur vie. Voilà, moi, c'est mon histoire, ça. Donner du sens à sa vie en faisant bien un métier qu'on a choisi, ou peut-être pas forcément choisi. Hein, moi, j'étais mauvais à l'école, et moi, j'ai fait de la cuisine. Hein.
Mais oui, vous, c'était pas une vocation, au départ, c'est ce qui est fou.
Pas du tout, non.
Ah oui.
Pas du tout.
On va en discuter de ça, du fait que ce soit pas votre vocation au départ. Alors qu'aujourd'hui... Vous dites, ce que je sais faire, c'est construire des goûts. Mmh. Vous l'expliquez très bien dans ce livre, c'est-à-dire que vous avez comme une bibliothèque de goûts en tête.
Oui.
Et donc, vous faites l'association en tête avant de la faire dans l'assiette.
Ça, c'est... Je ne suis pas un très bon technicien.
Non, ça, mais... je vais vous le dire. Hein. Franchement...
Vous avez compris. Ce qu'on voit pas... Ce qu'on voit pas à la radio, c'est que j'ai un pansement à chaque doigt.
Ah oui, c'est vrai?
Non.
Ah non, d'accord, non, c'était une blague. Ah, vous m'avez eu, Pierre, vous m'avez eu. Il est fortiche. Oui, c'est vrai, vous dites que vous n'êtes pas un bon technicien.
Oui, bon, bah, ouais. Non, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus forts pour mm-hmm. bouder une volaille, pour faire rôtir au millimètre près le rôti de bœuf du dimanche. Ma femme a désespéré, mon rôti est toujours un peu trop cuit. Mais ça m'intéresse. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas. Moi, ce qui me passionne et ce qui est mon truc, mais j'y peux rien. J'ai la chance d'avoir découvert ce talent que j'ai. C'est rêver des goûts, les construire, et avec un risque, un taux de réussite de presque 95%. Voilà. Après, on affine, mais bon, voilà, c'est... Voilà, donc je pars de produits très, très basiques, mm-hmm. j'emploie assez peu d'épices, même très peu, mais, vous savez, je prends toujours l'exemple de la ratatouille. La ratatouille, c'est de l'ail, de la tomate, de la courgette, de l'aubergine, nanana. Et puis, il y a un truc qui est ce qu'on appelle de la chimie ou de la cuisine, mm-hmm. ça devient une ratatouille. Et la ratatouille, c'est ce mélange de ces produits et qui construit un goût. Alors, et bon, voilà, c'est... Et ben moi, je suis un constructeur de ratatouille depuis 50 ans.
Bistroscopie, Charline Vanhoenacker sur France Inter.
Vous venez de Saint-Étienne, donc ville ouvrière pas loin de oui. Lyon, plus bourgeoise, phare de la gastronomie.
Et Saint-Étienne, c'est une ville du Nord.
Oui.
C'est une ville du Schnorr.
Mm-hmm. Oui, c'est vrai que ça me fait penser à ça aussi, moi, qui vient du Schnorr, justement. Ouais, Saint-Étienne, je me sens très proche.
Ouais.
Et alors, vous y ouvrez votre premier restaurant, vous obtenez 3 étoiles, ce qui vous conduit à un moment à devoir avoir plus grand, déménager.
Non, c'était pas du tout mégalomaniaque, mon histoire. C'était comme certains, comme mes confrères, Michel Bras, ou Marc Véra, c'était juste donner encore plus de plaisir à nos clients. C'était juste l'envie d'offrir le meilleur parce que ce que je fais me passionne et j'ai essayé d'aller le plus loin possible.
Mais attendez, c'est terrible parce que vous voulez offrir meilleur, donc vous prenez des risques, vous prenez plus grand, mieux décoré, vous mettez vraiment. Voilà. Et puis ça se casse la gueule.
Mmh. Oui, c'est un peu moi qui décide de tout arrêter. Ça m'a valu d'ailleurs un peu de scepticisme de la part des autres, je dirais des juges, tout ça, parce qu'ils ne comprenaient pas.
Ouais. Vous étiez l'enfant chéri de la ville qu'on a laissé tomber, en fait.
Oui, mais on est dans un système qu'on appelle capitaliste, et il faut accepter les règles du jeu, on peut gagner, on peut perdre. J'ai perdu. Il y a des éléments que j'ai pas analysés, avoir des chambres, être dans un environnement un peu plus peut-être plus bucolique. L'endroit, la maison était extraordinaire, l'intérieur était extraordinaire, mais l'environnement était un peu nul, quoi. Ça, je l'avais pas analysé. Pourquoi je l'ai pas analysé? Parce que la passion de mon métier, le cœur de mon métier, elle me prenait toute ma tête, quoi. Voilà.
Oui, mais donc Pierre Gagnard, vous vous êtes un peu senti trahi par votre ville natale. Donc, est-ce que vous êtes réconcilié depuis?
J'ai jamais été fâché.
Non.
Non.
Oh, vous êtes trop cool, vous.
Non, mais c'était de ma faute. C'est tellement facile d'accuser les autres. Non.
Vous avez fait votre autocritique. Vous êtes dit là, il y a des choses que...
Oui, je l'ai fait après. Par contre, il n'y a qu'une chose où j'étais un peu prétentieux. Et j'ai bien fait de l'être, je crois. J'ai jamais envisagé de changer ma cuisine. Pour moi, c'était pas trop autrement. Donc, quand je suis venu à Paris, si ça n'avait pas marché, c'est que j'étais mauvais. C'est que j'étais pas fait pour... Parce que notre métier, c'est un peu comme beaucoup de métiers, hein. C'est pareil dans le vôtre. On a des idées, on a un talent, on a un discours, ce qu'on appelle être un artiste. Et puis l'artiste, il doit rencontrer un public, et ce public, il est là ou il n'est pas là, et ça peut passer à côté, quoi. Mm-hmm. Vous voyez, moi je pense souvent à quelqu'un que j'ai connu à la fin de sa vie, Nougaro. Nougaro, il a tout le temps fait 700 personnes. Et quand Gainsbourg est devenu Gainsbar, eh bien, il a fait le Zénith. C'était autre chose. Et il a toujours un autre public. Alors que quelqu'un comme Nougaro, qui était un grand poète, c'était plutôt du jazz, il a jamais pu écarter les murs. Voilà. D'ailleurs, moi, je connais très bien mes limites. Mais mes limites, j'ai eu la chance, effectivement, d'avoir des opportunités de tous ces lieux à l'étranger. Moi, je n'en reviens pas.
Ah oui, écarter les murs, vous l'avez fait, vous.
Mais j'en reviens pas.
Vous êtes spectateur de ce qui vous est arrivé.
Il faut un peu parfois être spectateur de ce qui... Parce que justement, je ne l'ai pas été pendant des années. Ce qu'on appelle l'introspection.
Alors, on revient à vos débuts, même enfant, Votre grand-mère, elle tenait l'auberge du fer à cheval, donc à Saint-Étienne.
Oui.
Quel souvenir vous avez de ce lieu? Ça ressemblait à quoi? Vous pouvez nous y emmener?
Alors, ce n'était pas Saint-Étienne.
Non.
C'est dans un petit village qui s'appelle Apinac, qui est à la frontière du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire. C'est un village qui est près de Sabonnet-le-Château, qui est la capitale de la boule, au but, la pétanque.
Ah oui, la pétanque.
Voilà. C'est une vraie campagne, voilà, avec des forêts, avec des ruisseaux qui malheureusement sont un peu secs aujourd'hui.
Mmh. Et qu'est-ce qu'on mangeait à l'auberge du fer à cheval?
On mangeait des truites aux bleus, on mangeait des gratins de pommes de terre, du chou, enfin des choses très basiques. Hein. Mmh. Et ma grand-mère, elle nourrissait. Alors elle avait quelques bêtes, quelques vaches, quelques poules, quelques lapins. Son mari, qui était mort très jeune, était maréchal ferrant. Voilà, puis il cuisinait très simplement, et le soir, les soirs d'hiver, la soupe était toujours sur le coin du feu pour les représentants qui arrivaient avec le froid. La clé était sous la pierre, et ils arrivaient à 10-11 heures, et ils savaient qu'il y avait une soupe qui était prête. Voilà. Et parfois, ils faisaient chabrose. Alors, chabrose, c'est un peu de soupe et beaucoup de vin rouge. C'est ce qu'on appelle le vin chaud à Courchevel.
J'adore cette idée. Vos parents, au départ, ils sont cultivateurs.
Ils sont un peu ce qu'est ma famille, un peu tout, un peu rien. D'ailleurs, peu cultivateurs, mais ils vivent en autarcie. C'était le village d'où je suis né. Moi, je me souviens, les troupeaux qui rentraient le soir, c'était 11-12 mètres maximum. Quand j'en envoyais 12, c'était un gros troupeau. Donc, c'était des toutes petites exploitations. Honnêtement, je ne sais même pas comment ils vivaient, ces gens. Mais ils vivaient. Moi, je suis d'un ancien monde, vraiment. J'ai vraiment vécu ce monde totalement englouti, de ces fermes hyper modestes. Il n'y avait pas de chauffage dans la maison, évidemment. Il n'y avait pas d'eau chaude, bien sûr. Mais c'était un monde. C'était pas mieux avant. Il n'y a pas de passéisme. C'est juste une espèce d'image d'un monde totalement englouti. Voilà.
Ouais. Vous parlez de petites exploitations. Au moment où on parle, il y a une crise agricole qui dure.
Je ne sais pas comment c'est. Moi, j'ai assisté en direct presque il y a quelques semaines. J'ai un ami, des derniers 68ards que je connaisse, qui est parti vivre l'aventure dans les années 68, justement, faire l'élevage. Et puis lui, il est vraiment devenu éleveur. Il est dans les Pyrénées. Eh bien, il accompagnait un jeune éleveur qui avait son cheptel, 40 bêtes, qui était abattu, quoi. Alors, ce qui est terrifiant. Mais je défends ni l'un ni l'autre. Il y a des raisons évidente, mais je peux pas porter le jugement. Est-ce que c'est bien, pas bien? Je sais pas. Je sais que mon copain, bien sûr, ils ont tenté de s'interposer, mais il n'était pas question d'aller. C'est en plus c'est un type aujourd'hui entre guillemets un sage. Il n'était pas question qu'il aille faire le coup de poing ou je sais pas quoi avec la police ou la gendarmerie.
Mais donc vous êtes un peu en prise avec ça, quoi, et forcément votre métier.
Bien sûr, oui.
Bien sûr. Et puis votre père, il a monté une belle affaire dont le succès l'a dépassé.
Tout à fait, parce que...
C'est-à-dire ?
Ben, mon père, il fallait qu'il vive. Il a commencé à gérer un hôtel à Val-d'Isère, puis il a fait un peu de cuisine, et puis Val-d'Isère, c'était très compliqué à l'époque. Il avait déjà 3 enfants, donc il a acheté une affaire près de Saint-Étienne, et puis il a beaucoup travaillé, un vrai succès, mais il s'ennuyait ferme, c'était pas son truc. Il n'a pas su transformer l'essai en plaisir. Voilà. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'aimais pas ce métier, parce que j'ai vécu près de parents aimants, mais dépassés par les événements, toujours en retard. C'est pour ça que j'essaye d'être toujours à l'heure. On n'était jamais à notre place. Donc j'ai vécu une enfance qui n'était pas malheureuse du tout, mais qui n'était pas joyeuse, quoi. Voilà.
Et donc, voyant ça, vous, c'est un peu comme si vous aviez été vacciné. Vous avez observé ça et vous n'êtes pas laissé dépasser, vous.
Eh bien, je me suis laissé dépasser, si, puisque
avec Saint-Étienne.
Je suis rentré en apprentissage à 14 ans, en me disant, qu'est-ce que tu fous là? Ça a duré des années, puis un jour, ça s'est éclairé. Je ne pars dans le détail, mais il y a eu deux, trois petits éléments qui m'ont fait comprendre que ce métier, c'était un moyen d'aller vers les autres. un moyen de les aimer, un moyen de créer du lien social, du lien affectif. Et puis, plus que jamais, vous parlez de cette fameuse crise aujourd'hui, mais nourrir aujourd'hui les gens, c'est une vraie responsabilité, parce que les produits sont chers, parce que on se rend compte aujourd'hui à quel point ce que l'on mange peut nous aider à être en forme, ou au contraire, abattu, même sur le plan mental, moral, quoi. Voilà. Donc on porte quelque part une bonne parole. Alors, bien sûr, on fait un commerce, il y a un prix, ça j'en suis conscient. Mais justement, c'est aussi une raison pour laquelle je fais ce métier avec tellement d'énergie et tellement de sincérité et de passion. C'est parce que je me dis, quand tu reçois un turbo magnifique, et que ce turbo, il est rarissime, et que tellement peu de gens vont pouvoir le manger, tu te dois d'en faire de l'excellence. Parce que je sais que de l'autre côté de la rue, il y a des gens qui non seulement mangeront comme esturbo, mais ont peut-être du mal à manger un sandwich dans la journée. Voilà. Donc il y a une espèce de moralité dans ce que je fais, qui d'intransigeance. Voilà, bon, c'est comme ça que je vois.
Oui, c'est votre leçon.
C'est une histoire.
Ouais. Ouais, ouais. D'où cette masterclass, votre livre.
Alors, masterclass, ouais. Moi, je trouvais ça très prétentieux. moi, j'ai dit, mais j'ai rien à raconter. Ce qui a désespéré l'éditeur, parce que rien à raconter, mais qu'est-ce qu'on fait, là? On en fait quoi?
C'est vrai que depuis un moment, je me dis, il n'a rien à raconter. C'est vraiment ce que je me suis dit.
Voilà, et puis, c'est un témoignage. Ouais, c'est un peu du vagabondage. C'est pas du bien pesé, bien compté. C'est la cuisine, c'est de la poésie. C'est.
Eh ben, on va vagabonder.
C'est un instant. C'est...
Allons-y. Moi, j'ai envie de vagabonder avec vous. Je suis sûre que nos éditeurs. Je suis sûre que nos auditrices et auditeurs aussi.
Oh, le pléonasme.
et vous qui aimez les mots, Pierre Gagnaire, la littérature, qui écrivez vos menus, un jour, ça s'est retrouvé en chanson.
Oui.
C'est celle qu'on va écouter. Oui, vous pourriez dire un mot là-dessus?
Alors, c'était à France Inter.
Ouais.
C'était. Une émission de Jean-Louis Fouquier. J'étais invité et passé ce groupe à Aston Villa, et on a sympathisé, voilà. Puis c'est devenu ce titre
extraordinaire.
Et alors, dans lequel il y a Bachung, il y a Jean-Pierre Coff, il y a Claude, pas Claude,
il y a Zazie,
Jacques Lanzmann, qui était vraiment un ami, ouais, Zazie, voilà, les Robin des Bois, et ça en fait un truc très drôle, quoi.
Qui s'appelle Slow Food. Et les paroles sont de Pierre Gagnaire, puisque ce sont 27.
Oui, mais je touche pas à droit d'auteur, je ne comprends pas. J'ai pas compris. À un moment donné, il s'est détourné par quelqu'un.
Bah, ce sera pour Aston Villa. C'est le choix musical de Chewbacca.
Bœuf, araignée de mer et caviar. Royal d'araignée de mer. Cœur de filet de bœuf de Salers. Au caviar, au cirque. Petite quenelle au caviar pressé. Galette de blé noir au navet blanc. Mille feuilles croustillant au château Climens, 1995. Pressé de choux, cœur de bœuf et chair de tourteau, assaisonné d'un beurre fondu, cerfeuil et miel d'arbousier. Une déclinaison d'asperges vertes et blanches. Le chevreau, pièce de chevreau rôti, feu d'enfer. Rabat grillé, jeune fenouil. Et radis glacés en aigre doux. Caillette aux olives noires de Luc. Cannelée à la pimpronelle. Et fromage de chèvre frais. Agrémenté d'une pâte de piment Nora. L'agneau. Laiton de l'Aveyron, sel poêlé à l'origan, carré frotté d'un cahier de brebis en tandoori et timbales de riz à l'oseille pourpre, escargot petit gris sauvage, lié d'un pesto de cerfeuil, feuilles cigarettes de chou Shanghai,
personne.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Pierre Gagnère est au bistrot avec nous pour l'apéro. Pierre Gagnère, avec votre expérience, est-ce que vous finissez par reconnaître les inspecteurs du Michelin ou pas ?
Non, et je ne veux pas.
Non ?
Je veux pas.
Ça ne vous intéresse pas ?
Non, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais je ne veux pas parce qu'on fait au mieux, il y a beaucoup de stress. Si en plus on doit repérer les mecs qui ont des fausses moustaches, qui ont des moumoutes,
ils ne sont pas forcément inspecteurs. Hein. Tout à l'heure, avant qu'on écoute le disque, vous parliez de la technique, oui. En disant que ce n'était pas votre fort. Et vous concédez dans votre livre, la masterclass parue chez De Noël, que vous n'avez jamais réussi vraiment à progresser en 40 ans. C'est vrai, c'est...
Si,
un peu. Ouais, alors, vous êtes modeste.
Oui. Non, mais un peu, mais pas... Oui.
Pas beaucoup. Ouais. Ouais. Et vous racontez, enfant, il y a juste une ligne là-dessus, enfant à l'âge de 4 ans...
Oui.
On vous attache la main gauche au banc.
Oui. Ah, ça, c'est l'horreur, ça.
Mais pourquoi faire ?
Ah, ben, et puis je m'en souviens très, très bien. Et ben, pourquoi faire ? Parce que je suis gaucher. Le gaucher, c'est le diable. Donc, vous vous retrouvez avec une main, non, on ne savait que faire. Et donc, toute votre vie, vous trimballez ça. Le feu rouge, il est vert. Enfin, le rond-point de la Bastille, je rejetais avec mon épouse, d'ailleurs. J'ai dû le faire 5 fois. Et c'est extrêmement perturbant. Hein. Oui, oui.
Donc ouais. on a essayé de contrarier le fait que vous soyez gaucher.
Mais j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont vécu la même aventure que moi. Hein.
Ouais. Bah, vous m'étonnez qu'aujourd'hui en technique c'est difficile.
Oui.
C'est fou. C'est traumatisant ça en fait.
Un petit peu, oui.
Bah oui. Et ce livre dans lequel vous racontez tout cela, il s'ouvre sur des dates importantes de votre biographie. Et là, je lis. 1971, service militaire sur le Surcouf, en tant que cuisinier amiral. Et vous vous trouvez à bord lors de sa collision avec un pétrolier soviétique. Et il y a un mort et 9 disparus.
Oui, mais alors c'est...
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ben, ce qui s'est passé, en fait, on le saura jamais.
Alors l'histoire raconte que le navire russe était dans son droit...
Alors
il y a une collision.
Il y a une collision, oui. Le pétrolier est équipé de brise-glace du côté de Gibraltar. Donc déjà, bon, voilà.
Ouais. Vous rappelez le choc ?
C'est un choc, oui. Mais bizarrement, je n'ai pas été traumatisé. Si, je l'ai su. Longtemps après, oui, ce qu'on appelle la claustrophobie. Et ça mène ça.
Enfin, moi, je me suis intéressé un peu. Je suis allé voir le bateau fini coupé en deux,
Avec
une partie qui coule et l'autre qui est rapatrié.
Voilà, on a dérivé, on a été récupéré, je ne sais plus comment. On s'est retrouvé à Toulon. Enfin, oui. Bon, bah,
mais vos souvenirs sont encore assez précis ou pas ? Parce que moi, c'est traumatisant.
Non, pas très précis. Non.
Donc, c'est comme si vous aviez réussi à. À essayer de vous détacher de ça ?
Je crois que je fais partie des gens qui zappent très vite. Je passe à autre chose. C'est-à-dire que je peux être atteint. Hein. Moi, une critique d'un client, ça va...
Mais une collision entre deux navires, ça va.
Non, mais j'étais gamin. On ne vit pas les choses à 20 ans comme on les vit à 40.
Et ensuite, vous sillonnez l'Amérique du Nord en stop.
Oui.
Et vous faites des petits boulots en cuisine, j'imagine, pour survivre. Oui. Donc vous avez cuisiné pour les Ricains.
Oui, c'est interdit.
Bah non, mais c'est marrant parce qu'on a un cliché sur la cuisine américaine.
Non,
c'est pas évident.
J'ai pas beaucoup cuisiné parce que j'avais assez de sous pour que ça roule. Voilà. J'étais bien parti pour rester là-bas. Puis il y a eu, là pour le coup, trahison un peu familiale. Mon père était malade, il n'était pas malade. Donc je suis rentré, le fil était coupé. Et après, c'était trop tard. Quoi. Ouais. Mais j'aurais rêvé de travailler aux États-Unis.
Vous auriez rêvé de travailler
Oui. Et d'ailleurs, Paul Bocuse, qui était quelqu'un quand même qui avait une vista impressionnante, il m'a dit, mais Pierre, tu dois partir en Amérique, ta place est là-bas. Il m'a dit ça il y a 45 ans, parce que ma façon de cuisiner, ma façon de me comporter, ma façon d'appréhender les choses, elle aurait collé à ce pays. Ouais. Mais je suis très heureux d'être resté en France. Hein.
Donc, non, on disait évidemment cuisiner pour les Américains, c'est chouette. Et cuisiner pour Xi Jinping, alors ?
Eh bien, je l'ai fait. Eh bien, oui. Eh bien, oui.
Je sais, j'ai vu.
Eh bien, oui, mais c'était.
Donc, il y avait un dîner officiel à l'Élysée en mai de l'année dernière.
Oui.
Visite officielle de Xi Jinping, vous êtes trois chefs et vous cuisinez pour. Non, mais c'est le stress, parce que s'il y a un truc qui ne va pas.
C'est vrai.
Ah, bah là, c'est la cata.
C'est
quoi.
Vrai. Non, mais ils sont très bien équipés, l'Élysée. Ouais. J'en profite pour rendre hommage au chef de cuisine de ce lieu, qui évidemment est un lieu hautement symbolique de notre pays. Et la cuisine, justement, elle sert. Arrondir les angles.
Et dites-moi, comme il y avait Xi Jinping,
oui.
Est-ce que genre il y avait un goûteur ?
Oui.
Bah oui.
Oui, mais il n'y a pas que Xi Jinping. Tous. Ils ont tous, tous les gens importants.
Et ça se passe comment ? Alors vous êtes en cuisine, et le goûteur, il arrive, il goûte l'assiette de Xi Jinping avant de lui servir ?
Top secret.
Ah zut. Ah, c'est dommage. Moi j'aurais bien aimé savoir, mais bon. J'insiste pas. Bon, j'insiste pas. Bon, allez.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Pierre Gagnère, votre épouse, elle est romancière. C'est toujours dangereux, ça, parce que ça, c'est toujours le risque de se retrouver dans un personnage, non ?
Oh, écoutez, là, je marie les comptes sur... Non.
Vous n'êtes jamais retrouvé dans un personnage de votre épouse, Sylvie Le Bihan ?
Non. La voisine, oui.
Très bien. Et vous entretenez une relation épistolaire avec le physico-chimiste Hervétis, qui vous lance comme un peu des défis à partir des observations scientifiques qu'il fait. Il vous la soumet et il dit, voilà Pierre, monsieur Pierre, faites quelque chose.
Ça a duré 10 ans.
Ah,
c'était extraordinaire.
Alors ça, c'est toute une partie dans votre livre, c'est passionnant. Je voudrais qu'on donne un exemple pour que ce soit concret, un exemple qui m'a fasciné, l'exemple du blanc d'œuf.
Oui.
Voilà, donc c'est-à-dire que Hervétis fait une observation à partir du blanc d'œuf, et il fait une observation qu'on peut, avec simplement un œuf et un blanc d'œuf...
On peut en faire une montagne.
Une montagne de d'œufs en neige, mais vraiment, genre un mètre cube.
Ah, c'est ça.
Avec un seul œuf.
Oui, c'est ça.
Mais racontez-moi ça. C'est...
Non, mais moi, je ne vais pas vous le raconter. Ouais. Il faut que vous invitiez Hervétis un jour, qui va vous en parler avec...
Monsieur fait la programmation de mon émission, maintenant. On aura tout vu.
Non, mais... Une des plus belles choses qu'il a, enfin, une des belles choses qui est vraiment entrée dans notre cuisine, c'est ce qu'on appelle, ce qu'a appelé Hervé, cristal de vent. C'est un meringage, c'est donc un blanc d'œuf dans lequel on incorpore du sucre, on le bat sur un endroit chaud pour que ce blanc d'œuf coagule, et on incorpore un jus d'orange, un jus de citron, un alcool ou que sais-je, et on obtient une espèce de meringage d'une légèreté absolument incroyable et avec un goût terrible. Et voilà, ça il n'y a aucun livre de cuisine traditionnelle qui l'explique, ça. Par exemple, et puis il y a des trucs aussi, vous voyez, quand vous parlez par exemple de poivre, c'est tout, ça pour le coup, c'est des trucs très pratiques. Tous les livres de cuisine disent ça, les poivrés, on ne poivre pas. Le poivre, c'est un élément vivant comme le thé. On va le mettre au dernier moment, il va légèrement infuser, il va garder toute sa force, toute sa subtilité, et ça, c'est génial. Et ça, c'est le travail d'Hervétis.
C'est passionnant. Pierre Gagnère, vous avez plusieurs restaurants, donc vous allez avoir l'embarras du choix pour passer les fêtes de fin d'année dans un resto, dans un de vos restos ou pas ?
Ben, je vais travailler. Là,
Ah oui ?
Oui. Ouais. Alors, ça fait partie de mes... Alors, pour le coup, d'une petite mission, je pourrais effectivement, personne ne me le demande, rester tranquillement à la maison, puisque nos restaurants à Paris sont fermés. Mais je descends pour la fin de l'année, je descendrai dans notre restaurant à Châtel-Aillon-Plage, près de La Rochelle, et je passerai le réveillon avec les équipes. Alors, l'année dernière, c'était à Dubaï, l'année avant, c'était je ne sais pas où. Et j'aime bien justement donner ce temps pour dire aux mes équipes merci, parce que ces gens qui sont loin, alors La Rochelle c'est pas très loin, mais ceux qui sont l'autre bout du monde, ils défendent la bannière Gagnère, quoi.
Oui, bien sûr.
Une attitude, un comportement, une cuisine, bien sûr.
Oui, parce qu'il y a plein de restaurants, donc on peut dire je suis allé dîner chez Pierre Gagnère, alors que vous n'étiez pas là, quoi.
Oui, ça c'est le... Oui, ça c'est... Voilà, je ne sais pas quoi répondre. Hein.
Non, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse. Et donc, qu'est-ce qu'il y aura sur la table de Pierre Gagnère là, on est, Noël, c'est dans 4 jours, là.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y aura sur votre table? Il y a un standard de Noël qu'on conseille?
Oh, bah écoutez, le chapon, c'est quand même un grand must de français. Moi, je trouve que...
Le chapon.
Alors, bien sûr, l'ultime, c'est le chapon de Bresse. Mais il y a beaucoup de régions dans lesquelles on peut... Moi, justement, par exemple, le cul-oiseau, qui est dans le Perche, qui n'est pas loin, qui fait des magnifiques volailles. Donc on essaye aussi, dans ces restaurants, d'utiliser au maximum les produits locaux. Châtelaillon, par exemple, on est près des boucholeurs. Donc il y a plein d'ostréiculteurs. On va utiliser leurs huîtres.
Les huîtres et les moules.
Voilà.
Ok. Ça, ça va être le Noël de Pierre Gagnère, ça.
Voilà.
Volaille et huître moule.
Voilà, et salade de mâche, voilà. Ce que je peux connaître comme truc,
ouais.
C'est une salade de mâche, c'est des beaux champignons de Paris ou des rosés, ça coûte pas très cher, et on fait des fines lamelles, surtout pas les assaisonner, c'est absolument délicieux sur une salade de mâche que vous mélangez avec, par exemple, une julienne de céleri rave, et au lieu de l'huile d'olive, vous mettez un peu d'huile de noix, ben, c'est top, hein, ouais. Voilà.
Merci Pierre Gagnère. Je rappelle votre masterclass Pierre Gagnère en cuisine, c'est paru chez De Noël.
Merci beaucoup.
Merci cher Pierre et bonne fête de fin d'année.
Merci.
Ainsi s'achève Bistroscopie. Merci à Ophélie Vivier et Lisiane Larbani à la préparation, Christophe Papon à la technique, Julien Dumont au mixage, Corinne Chauvel à la documentation, à la réalisation Anaïs Reynard et Romain Causer. Et merci à Lucas Demoulin, notre stagiaire de 3e. Je vous retrouve samedi prochain à 19h20.